ne pas céder à la puissance du neuromarketing qui prescrit et qui fait des enfants et des adolescents les prescripteurs des achats des parents.
Anne Lefebvre est psychologue clinicienne et est présidente de l'association Alerte Écran, association pour l'éducation et la rééducation du temps d'écran.
Quand on a explosé le temps d'écran, c'est très très difficile de revenir en arrière.
Dans ce podcast, Anne nous détaille les risques liés à une surexposition de nos enfants et de nos adolescents aux écrans, l'impact que les différents confinements ont eu sur leur usage du numérique et les problèmes d'attention que cela peut générer. Nous aborderons également avec elle le type de positionnement qu'il est préférable d'adopter en tant que parent pour conserver une certaine harmonie dans le cercle familial. Je m'appelle Clément Donzel et j'ai le plaisir d'être accompagné par mon frangin, Jérémy Donzel. Bienvenue dans notre premier podcast dédié aux conséquences de l'addiction des jeunes aux écrans. Podcast garanti 100% audio, 0% écran. Anne Lefebvre, bonjour. Nous regardons en moyenne une centaine de fois notre smartphone par jour. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'apparente à une addiction ?
Alors, sur le plan médical, l'OMS a pris le terme d'addiction, au sens strict, addiction comportementale, pour les jeux vidéo multiplayers. Et donc, on est, quand on parle d'addiction, pas dans un terme médical. Ça, je pense que c'est important pour l'instant. C'est important de le clarifier. Ceci dit, il y a un fort pouvoir attractif et un pouvoir de captation de l'attention qui est évidente, de l'attention exogène. C'est-à-dire l'image capte l'orientation de la personne qui le regarde. À tous les âges de la vie, il y a un fort pouvoir de captation qui est exploité évidemment par les développeurs de contenu et par les fournisseurs de terminaux. Et donc ça, c'est vrai pour le smartphone, pour la tablette tactile et pour tout écran et à tous les âges. Donc avec un espèce d'effet hypnotique, disons, où on ne se rend pas compte du temps qu'on passe devant l'écran.
Et du coup, quand vous dites exploiter, est-ce que c'est donc on est dans une démarche volontaire, clairement, aujourd'hui, de la part de ces acteurs?
Oui, clairement, dit comme ça et assumé comme ça, dans une espèce d'économie de l'attention où il s'agit, par le biais du design de ces contenus, du format même de ces contenus, par le biais des likes, des flammes, etc., de vous maintenir captif le plus longtemps possible en vous relançant par le biais des notifications et avec un design qui, on le sait, a cette fonction addictive, entre guillemets, par le biais du système dopaminergique, c'est-à-dire qu'il y a une prime de plaisir et une sécrétion de dopamine à chaque fois qu'on produit le comportement. Et donc, pour avoir l'effet de plaisir, eh bien, il faut toujours plus d'accrochage à l'écran pour avoir cet effet dopaminergique. Et donc, c'est connu, il y a eu c'est connu et reconnu, ça a été très médiatisé, il y a eu des très beaux petits films qui ont été produits sur Arte, qui s'appellent Dopamine, une petite série de petits films qui sont très informatifs pour les familles. Donc, les familles commencent à être un petit peu au courant de ces effets-là.
Vous avez un exemple concret d'addiction comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, un exemple concret d'action volontariste qui était proposée par ces acteurs pour nous rendre dépendants, justement. Vous parliez des likes, des flammes, etc. Est-ce qu'il y a un exemple marquant que vous vouliez partager par rapport à ça?
Les likes et les flammes, c'est ça. C'est-à-dire les adolescents font la course aux likes et aux flammes et donc sont absolument pas conscients du temps qu'ils passent devant les écrans. C'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir y passer une heure et en réalité, quand ils consultent le compteur qu'ils ont maintenant sur les générations de smartphones, eh ben, ils en sont à 5 heures, 6 heures et plus par jour.
On perd vraiment
c'est-à-dire
la leçon
qu'ils
du temps.
Sont plus... Ouais, ils sont plus devant l'écran que devant un professeur.
Ouais, et puis la notion de flamme, hein, vraiment, est sur donc particulièrement sur le réseau Snapchat, qui devient en fait une sorte de représentation de l'amitié. Plus on va rester de jours connecté et échanger avec ses copains, plus l'amitié sera forte. En tout cas, voilà, c'est l'intention un petit peu qu'on ressent côté de ces plateformes.
Voilà, avec perte de la définition de ce que c'est que l'amitié.
Et qui devient essentiellement virtuelle pour le coup.
Qui devient connexion communicationnelle et pas amitié au sens humanité ou philosophique.
Question pour vous sur le type de symptômes que vous voyez, parce qu'on parle d'addiction, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour les familles? Quels sont les témoignages que nous pouvons voir, que vous avez pu voir, et les raisons pour lesquelles finalement on en venait à vous consulter?
Alors, moi, je dirais que ce n'est pas toujours le premier motif de consultation, sauf à l'adolescence, où ça devient trop conflictuel dans les familles, la consommation des smartphones ou des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Et là, il y a, l'objet, c'est la conflictualité générée par les écrans. Derrière ça, après, il faut faire une évaluation pour savoir si oui ou non on est dans le cadre d'une addiction. Je dirais qu'il faut distinguer les âges. Moi, je travaille donc chez le tout petit, l'enfant et l'adolescent. Historiquement, nous, quand on s'est constitué, le motif de consultation le plus fréquent, c'était des problèmes d'attention à l'école. Et au début, on faisait des bilans attentionnels auprès de l'orthophoniste qui a fini par nous dire, écoutez, là, il faut déjà poser la question des écrans. Et on est tombé sur des pratiques de famille où il y avait de l'écran avant d'aller à l'école, de l'écran dans tous les moments interstices où il n'y avait pas d'école et pas de loisirs structurés. Et donc, la première des choses, ça a été de demander systématiquement aux familles de compter ce temps d'écran et d'essayer de le diminuer pour déjà améliorer les capacités attentionnelles. On sait maintenant que c'est vraiment à échelle sociologique et donc aux assises de l'attention, entre autres, on avait invité Jean-Philippe Lachaud, qui est notre spécialiste de l'attention et qui propose dans les écoles tout un kit de rééducation de l'attention qui montre que le problème est vraiment devenu absolument crucial, majeur et à échelle complètement collective dans une classe. Donc la bonne nouvelle, c'est que si on prend des bonnes habitudes de précaution vis-à-vis de cette captation d'attention, on peut améliorer les capacités attentionnelles d'un enfant, mais on sait qu'elles ont été abîmées par la surexposition précoce intensive plusieurs heures avant 6 ans. Donc ça, c'était le premier impact. Et beaucoup, c'était la télévision allumée en permanence, ou alors la multiplicité des écrans avec l'arrivée du tactile, c'est-à-dire non seulement les plateformes de jeux, mais après le smartphone et la tablette tactile, qui a augmenté mécaniquement le temps d'exposition aux écrans pour les jeunes enfants. Ensuite, on a vu, donc, pour les très jeunes enfants, avec l'arrivée du smartphone et des tablettes tactiles, des enfants qui étaient complètement surexposés aux écrans très très tôt, je parle dès un an, hein, et plusieurs heures d'affilée. Il faut savoir que chez un jeune enfant, le temps d'éveil est relativement limité, et donc on a vu des enfants qui étaient pendant tous ces temps d'éveil devant des écrans. Et donc, on a vu des symptômes qui ont été décrits par le professeur Massali, qu'on avait invité à la mairie du 19e dans un de nos colloques, un syndrome de surexposition précoce excessive aux écrans, et qui produit des difficultés communicationnelles, d'interaction sociale et de développement socio-émotionnel plus ou moins réversible en fonction du temps qu'on a passé et de la capacité qu'on aura eu à diminuer drastiquement ce temps d'exposition. Et ces symptômes ont été décrits initialement par une pédiatre de PMI avec un descriptif de troubles qui était à la frange ou à la limite de troubles qui ont pu être repérés et étiquetés comme troubles autistiques. La différence étant que, et la discussion avait été très, très vive à l'époque, hein, on peut avoir un trouble autistique, ce développement à bas bruit avant 3 ans, et parce qu'on a ce trouble-là sous-jacent, s'accrocher particulièrement aux écrans et aggraver la perturbation développementale. Et on peut aussi produire des symptômes qui ont l'air des symptômes autistiques, mais qui sont éminemment réversibles si on rectifie le tir assez vite. Je ne sais pas si je suis claire dans mon exposé.
Donc il y a quand même,
dans ma présentation,
ce que je note, il y a quand même une lueur d'espoir, on va dire, pour des parents qui pourraient se sentir démunis.
Voilà, en tout cas, il y a un diagnostic vraiment à repérer, il y a un accompagnement indispensable à mettre en œuvre très très tôt, dès qu'on voit des petits signes de troubles de la communication.
J'ai une question à vous poser, du coup, Anne, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, que je trouve un petit peu inquiétant, moi. Ce phénomène que vous décrivez et que vous constatez à travers les personnes que vous rencontrez, il est né quand, finalement? Il est né avec l'apparition des smartphones, avec la généralisation
des smartphones, etc. Il est né avec l'arrivée des smartphones, ouais, des tablettes tactiles, c'est-à-dire dans les familles, hein, dont je dirais 4 ans.
Donc ça veut dire qu'en fait là on n'en est qu'au début et finalement le constat des conséquences de ce que vous venez de décrire, on n'en est qu'au début et on n'a pas encore mesuré l'ampleur de tout ce que ça allait apporter parce qu'on n'a pas encore j'allais dire presque le recul dans le temps nécessaire pour se rendre compte de l'ampleur que ça a pris finalement. On n'en est vraiment qu'aux prémices.
Alors quand même, il y a eu dans le carnet de santé a été marqué de manière explicite il y a 2 ans. Dans le nouveau carnet de santé, qu'il ne faut pas donner d'écran du tout pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, du tout, ce n'est pas très, très clair, mais c'est dit comme pas pour calmer, pas pour manger et pas avant de dormir, c'est-à-dire pas pour négocier tout ce qui est difficile dans la parentalité avec un enfant précocement, et pas de télé allumée en permanence. Donc ça, c'est déjà un progrès. Il y a une toute petite ambiguïté parce que les auteurs, qui sont les auteurs du rapport d'Académie des sciences, maintiennent l'intérêt d'un écran chez les petits en attention conjointe, c'est-à-dire avec un adulte. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est pas vrai dans les familles. C'est-à-dire, ça commence par ça. On montre avec un adulte et l'enfant très rapidement prend tout seul et en autonomie et on est face à la problématique d'explosion du temps écran parce que l'enfant finit par faire des colères, réclame sans cesse ce smartphone ou cette tablette tactile et il reste très longtemps sans adulte. C'est comme ça que ça a dérapé dans les familles. Et moi, donc comme je travaille en pédopsychiatrie, un de nos missions, c'est de faire les diagnostics d'autisme. Et on est tombé sur une espèce d'épidémie d'autisme très, très importante, qui est une réalité clinique indéniable. Mais on est tombé sur des enfants à qui on découvrait des temps d'exposition énormes aux écrans tout petits. Et qui relevait la symptomatologie autistique avec des prises en charge très très fortes et qui sortait de l'autisme assez rapidement. Voilà, maintenant il y a un diagnostic différentiel à faire très très fort et très clairement depuis l'intervention du professeur Marcelli. Voilà, donc discussion, est-ce qu'on est sur un syndrome d'exposition précoce excessive aux écrans ou est-ce qu'on est sur des troubles autistiques ? Et ça mérite une expérience clinique, ça mérite une hygiène de vie autour des écrans et ça mérite des batteries de tests et des prises en charge précoces.
Pour essayer de donner quelques indicateurs à nos on va dire aux personnes qui nous écoutent, quand on dit un temps d'écran important ou considérable, on est sur quel volume horaire quotidien ?
Ce qu'il faut, ben là, c'était des enfants qui regardaient plusieurs heures et avant 3 ans. Hein. Donc là, ce que la convention maintenant est établie, pas d'écran du tout avant 3 ans. Et recommandation un peu plus molle, pas d'écran jusqu'à l'apprentissage de la lecture-écriture. Ça veut dire qu'entre 3 ans et 6 ans, si on tient à maintenir des temps d'écran, c'est par demi-heure. Uniquement. Alors, c'est par demi-heure pour les capacités attentionnelles, pour tous les effets sur le langage et la motricité, pour les effets sur l'attention, et puis aussi pour l'œil, parce que l'œil de l'enfant, il est programmé pour la vision pour les activités extérieures, c'est-à-dire pour la vision de loin, jusqu'à 10 ans. Et donc, capter plusieurs heures l'attention de l'enfant, c'est le mettre en acuité visuelle de proximité et c'est abîmer aussi. Et donc, on a par ailleurs des épidémies de myopie.
J'ai deux petites questions, moi, dans le prolongement de ce que vous venez de dire. C'est vraiment passionnant. La première, c'est est-ce que les dommages que vous constatez sont irréversibles ou pas ? C'est la première chose. Vous parliez tout à l'heure de capacité à sortir de cette forme d'autisme. Donc, c'est la première question. Et la deuxième, qui est plutôt une remarque, on a tendance à dire si un enfant voit dans son environnement, voit ses parents lire, s'il est habitué à aller voir avec un livre dans les mains, il aura tendance à apprécier la lecture ou en tout cas à être proche des bouquins. Est-ce que du coup, ce mimétisme, c'est pas ça qui finalement amène les plus jeunes à constater que leurs parents sont avec leur smartphone dans les mains toute la journée ou avec leur tablette, etc. Est-ce que finalement, c'est pas un phénomène de mimétisme qui explique grandement le dérapage qu'on est en train de vivre ?
Tout à fait, ça peut être ça, la consommation des parents, c'est-à-dire la consommation des parents comme message, c'est un objet de valeur que j'investis, donc l'enfant est attiré vers ça. Vous lui donnez un piano, il va être vers le piano, vous lui donnez un violon, il va aller vers le violon, voilà. Donc ça, c'est l'effet d'identification mimétique chez les tout-petits, ça c'est évident, mais c'est aussi que le parent, parce qu'il est pris dans un quotidien qui est très compliqué, peut avoir besoin de moments de répit, parce qu'un très jeune enfant, c'est très sollicitant, et peut obtenir très facilement ces moments de répit en fournissant une tablette tactile ou un smartphone, indépendamment de ce que fait l'adulte. Hein. Il peut être occupé à faire la cuisine, mais donner pour avoir un temps calme une tablette tactile ou un smartphone à un enfant. Alors, le temps calme, il l'aura, le temps de la captation de l'attention, mais il aura l'effet rebond après, avec tout le côté addictogène, les colères, la surstimulation. Un écran, c'est en fait de l'audiovisuel, c'est un flux sensoriel, auditif et visuel, et ça fatigue le cerveau du très jeune enfant. Donc le temps doit être de toute façon extrêmement réduit.
Et est-ce que vous avez senti une perte de contrôle sur cette limitation du temps, justement, dans le cadre du confinement ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un espèce de lâcher prise des parents qui se retrouvaient un peu coincés entre des obligations professionnelles par moment, entre des responsabilités de prolonger de continuité éducative ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de lâcher prise ? Est-ce que vous avez constaté que pendant ce confinement, pendant cette période qu'on va à nouveau vivre, il y a eu encore une fois une accélération de ce dérapage ?
Oui, tout à fait, absolument. Enfin, d'autant plus que les enfants n'étaient pas scolarisés, hein, les enfants et les adolescents. Donc, pour les adolescents, ça a été vraiment une espèce d'orgie numérique, sollicitée par l'école, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'ils ont fini par décrocher de l'école numérique et puis se gaver de séries Netflix ou de réseaux sociaux pour être en contact avec leur père. Hein, et c'était absolument vital, puisqu'ils ne pouvaient pas les voir physiquement. Donc, et les parents, oui, ont lâché prise et les ados, pour éviter le huis clos avec les parents, beaucoup d'entre eux se sont inversés dans leur rythme de vie, c'est-à-dire ont vécu la nuit sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., et dormaient dans la journée. Ouais. Voilà. Non, ça c'est évident et c'est constaté par tout le monde. Hein, donc, mais les parents, à leur décharge, ont fait ce qu'ils ont pu pour survivre dans cette...
Dans un contexte un peu particulier.
Ouais. Ah oui, tout à fait.
Alors j'ai une question pour vous, Anne, sur une étude qui paraît toutes les années, qui s'appelle Born Social, et qui indique qu'en moyenne, la moitié des élèves de 6e ont un téléphone portable. Donc l'entrée au collège est vraiment synonyme aujourd'hui de possession de smartphone pour les élèves. Et plus de 80% de ces mêmes élèves ont au minimum un compte sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est quand on rentre en 6e, généralement on a 10-11 ans, alors que la loi en France impose d'avoir 13 ans pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. Une question pour vous, on fait quoi ?
Alors, je dirais que dans notre expérience de défi sans écran, on comptait, il y a un temps de sensibilisation des élèves en classe par les enseignants, et on avait fait des petits sondages, et il y avait les deux tiers d'une classe de CM1 et CM2 qui avaient des comptes, qui avaient des écrans personnels, et qui avaient des comptes Facebook et autres de réseaux sociaux. Donc c'est même avant le collège. Et ça, c'était il y a 5-6 ans déjà. Donc, et le temps d'écran explosait totalement pendant les vacances scolaires et pendant le week-end. Donc, et ça, on le faisait compter comme prise de conscience par les enfants. Et c'est une vraie tuerie. Moi, dans le Val-de-Marne, quand je vois les enfants pendant les vacances, ils ne sortent pas parce que c'est dangereux du point de vue des parents, l'extérieur. Et ils veulent les avoir à la maison. Et à la maison, c'est avec les écrans pour qu'ils soient occupés.
D'accord.
Donc ça, c'est une évidence. Quand même, le ministère de l'Éducation nationale a pris cette mesure que nous, on a applaudi dès demain, qui est d'interdire les smartphones pendant la journée au collège, Le smartphone ne doit pas être utilisé, y compris entre les deux cours, et doit rester dans le cartable. On pensait que ça serait impossible à mettre en œuvre, et en réalité, ça se passe très bien. Nous, dans le collège du quartier, ça se faisait déjà, et ça ne pose aucun problème de demander ça. On pourrait faire un effort supplémentaire, de demander aux développeurs de ne vendre des smartphones, c'est-à-dire des téléphones avec Internet, qu'au niveau du lycée. Hein. Nous, on recommande la maturité, d'adaptation sociale et d'habilité sociale n'est en place que dans les années lycée. Et avant, on est à fort risque de mésusage et les effets de harcèlement via les réseaux sociaux existent dans tous les établissements scolaires, en primaire et au collège. Et donc, voilà, donc je pense que c'est collectivement, ça veut dire chaque famille, mais ça veut dire aussi qu'on puisse contraindre les développeurs de demander si c'est un smartphone adapté et avant cet âge, de contraindre les développeurs à mettre des contrôles parentaux, etc. Mais ça, on en est très très loin. Dans une économie de marché, on n'arrive à imposer aucune contrainte à quiconque quand il est question de marché.
Donc, toutes les fonctionnalités de contrôle parental, d'application de limite du temps d'écran, vous diriez aujourd'hui que c'est une solution nécessaire mais pas suffisante ou c'est finalement un peu un leurre qui ne répond pas aux besoins? Comment vous voyez ce type d'application qui paraissent quand même aujourd'hui assez utile pour un certain nombre d'utilisateurs ou de familles?
Voilà, c'est très utile pour les utilisateurs qui savent les faire marcher. Mais il y a beaucoup de familles qui sont incapables de mettre en place ça. Mais tout à fait incapable par méconnaissance du numérique, parce qu'ils sont mal à l'aise avec ces technologies, etc. Et donc, ça serait bien de pouvoir les mettre en mode de base, quoi. De vendre ces terminaux avec des équipements déjà installés, de contrôle parental, etc. Personne ne met de contrôle parental sur son smartphone qui donne aux enfants, personne n'en met sur les tablettes tactiles, etc. Et les gamins en autonomie sur YouTube tombent tout de suite sur des contenus inappropriés. C'est pour la question des contenus. Et puis pour la question du temps, ils ont beau avoir un compteur de temps, s'il n'y a pas une contrainte de limite d'accès, le temps est compté, mais n'est pas réduit.
On ne le voit pas passer.
Effectivement, vous parliez de contenu et on aura l'occasion, j'espère, dans un prochain podcast d'en parler, mais vous parliez de YouTube. 70% des vidéos qui sont regardées sur YouTube aujourd'hui viennent de l'outil de recommandation. Donc là, c'est également un sujet à part entière, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de contrôler ce que regardent nos enfants, notamment sur ce type de plateforme, ce type de médias. Mais bon, c'est un sujet, je pense, qui mériterait en tout cas un podcast dédié sur le contenu accessible. Est-ce que de manière concrète aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommanderiez à une famille, un parent qui serait tout à fait démuni par rapport à son ado, son enfant qui n'aurait plus, qui serait complètement immergé, addict à son smartphone, à son iPhone, à son iPad, sa tablette, etc. Quels conseils pourrait-on lui donner?
Moi, je pense que c'est indispensable de se faire aider comme parent pour se sentir renforcé dans la possibilité de poser des limites. Parce que quand on a débordé dans le temps écran, quand on a explosé le temps écran, c'est très, très difficile de revenir en arrière. Parce que ça génère des conflits et des colères. Des colères chez les petits et des conflits très, très forts chez les adolescents. Et que le système de « je te prive pendant 15 jours » et puis je te le redonne après, ça marche pas parce que ça crée des effets rebonds où l'ado est encore plus accroché une fois qu'il a récupéré son smartphone. Et on ne peut pas compter non plus sur la capacité d'autorégulation de l'adolescent ou de l'enfant si on n'a pas construit cette capacité sur un mode éducatif dès le début. C'est-à-dire que acheter un smartphone ou acheter une tablette tactile ou acheter une console de jeu, ça suppose être transparent avec l'enfant et négocier un contrat d'usage, de bon usage, de règles avant même qu'on l'ait acheté. Ce qui n'est jamais fait. Les parents l'achètent, c'est le plus beau cadeau, c'est le plus merveilleux, et puis ils attendent que ça dérape pour pouvoir ensuite se fâcher et dire que ça ne va pas. Donc, beaucoup de parents se sont mordus les doigts d'avoir offert un smartphone à l'arrivée au collège ou même en primaire. Ils l'ont fait parce que ça fait plaisir et qu'il y a une pression sociale énorme et des enfants qui tannent leurs parents jusqu'à ce que les parents cèdent en disant « je suis le seul de ma classe qui n'en parle », etc. Je pense qu'on est en capacité collectivement de faire bouger la norme sociale et la pression sociale. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin, s'il est un tout petit peu loin, à 3 minutes ou à 10 minutes de son collège, il a juste besoin d'appeler. Et donc un smartphone à clapper, pas un smartphone, mais un téléphone à clapper sans Internet est tout à fait suffisant. Les établissements scolaires peuvent permettre et autoriser à des appels via la vie scolaire, etc. Donc il faut vraiment ne pas céder à la puissance du neuromarketing qui prescrit, qui fait des enfants et des adolescents les prescripteurs des achats des parents. Il faut retrouver une capacité de parentalité assumée pour avoir, et c'est l'intérêt de ce genre de podcast ou en tout cas de la diffusion de ce genre de contenu auprès des parents, c'est de leur donner des arguments pour les rendre plus forts dans leur position parentale vis-à-vis de ça. Alors, ils sont d'autant plus forts qu'ils apprennent eux-mêmes à réguler leur propre consommation d'écran, c'est-à-dire ne consommer leurs écrans qu'une fois que les enfants sont couchés, hein, c'est-à-dire se rendre complètement disponible aux enfants une fois que les enfants sont rentrés de l'école, ça paraît la règle de base. Beaucoup de familles à qui on explique tout ça finissent par dire « Ah, en effet, on a bien réfléchi, maintenant, ce qu'on a compris, c'est qu'on ne va pas mettre d'écran du tout en période scolaire, et les écrans, ça sera juste le week-end ou pour les vacances. » Et ça, je crois que c'est important que chaque famille ait son style et ait cette réflexion sur la dose d'écran qu'ils veulent bien tolérer au domicile, et qui soit compatible avec le fait qu'il n'y a pas d'effet problématique. Et ça mérite un accompagnement. C'est difficile d'y arriver tout seul. Et l'accompagnement pour le jeune ou pour l'enfant est différent en fonction de son âge, évidemment. Je pense qu'avec un adolescent, il faut qu'on puisse avoir ces mêmes arguments avec l'adolescent lui-même, qu'on puisse en discuter. Le problème, quand ça a dérapé, c'est que ça ne discute plus entre l'adulte et le parent, le parent et l'ado, et il faut un tiers pour pouvoir discuter de ça tranquillement.
D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est très clair en tous les cas. Puis on sent quand même des lueurs d'espoir. Tout n'est pas.
Oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est un problème éducatif. C'est fondamentalement un problème éducatif et on devrait pouvoir gagner la partie si on a les bons arguments, si on sait pourquoi on pose ces limites-là.
Ça donne en tout cas quelques munitions. Donc c'est intéressant. Ouais.
Anne, on approche de la fin de notre podcast. J'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle, si vous me le permettez.
Oui.
Comment vous en sortez-vous à la maison dans votre usage du numérique et l'usage du numérique de votre famille?
Alors, nous, on est une famille avec un seul enfant, une fille. Une fille, c'est déjà moins compliqué vis-à-vis des écrans. C'est-à-dire que les filles, classiquement, sont un petit peu plus vers les réseaux sociaux. Classiquement, c'est sociologiquement. Et un peu, les garçons, un peu plus vers les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont puissamment addictifs. Voilà. Donc, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a une exposition, une vulnérabilité plus importante des garçons sur les capacités addictogènes des écrans. Donc nous, on n'a pas de télé depuis très longtemps, donc ça limite déjà ça. On a un ordinateur familial, et puis elle est lycéenne, hein, donc elle a un smartphone, et moi j'ai un smartphone. Moi, je dérape les temps écran facilement sur le smartphone parce que j'y fais... surtout quand on doit organiser des visioconférences, voilà. Quand je dis j'explose, je suis entre 2 et 5 heures par jour, disons. Voilà. Mais je peux regarder une émission sur un smartphone, etc. Bon, on n'est pas accro à Netflix et compagnie, donc c'est relativement encadré, c'est dans un usage relativement
raisonné. Pour le coup.
Voilà, mais c'est vrai que ça peut déraper très très vite. Alors, on est une famille où on lit beaucoup, donc ça occupe aussi beaucoup du temps.
Montré également par l'exemple, voilà, comme vous le disiez.
Voilà, tout à fait. Alors, la lecture, nous, ça fait partie de nos valeurs. C'est-à-dire, dans les défis dans les écrans qu'on promeut, on promeut aussi la lecture. Parce que la lecture, c'est le développement du langage oral et donc du langage écrit. Et c'est le développement de l'esprit critique. Et donc, c'est la meilleure arme vis-à-vis de ces écrans. C'est de maintenir une quantité importante de lecture. Et ça passe par la lecture à voix haute, à tous les âges de la vie. Et donc, dans les semaines de défis sans écran, on fait toujours des ateliers lecture très importantes où on fait un salon du livre pendant cette même période-là, etc.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, alors, Anne, j'ai pour conclure deux dernières questions pour vous. L'une, est-ce que vous avez vu le documentaire Netflix de Social Dilemma ? Première question et ma question de conclusion. Auriez-vous un ouvrage à nous recommander pour approfondir le sujet ? Vous nous avez notamment parlé de la série de films Dopamine sur Arte que je ne connaissais pas et que je vais m'empresser de regarder.
Alors, le documentaire, je le connais, c'est un documentaire de salubrité publique. Ça fait partie des choses que nous abordons régulièrement dans les conférences. En effet, les repentis des GAFAM sont en train de révéler l'ampleur du problème et les moyens du problème, c'est-à-dire l'économie de l'attention et le business qui est fait autour de tout ça. Je pense qu'il est encore possible de développer le numérique avec des critères éthiques. Et je ne fais pas partie de ceux ou celles qui veulent abolir le numérique. Et je pense qu'il y en a des usages extrêmement positifs et prometteurs dans tous les domaines, de la science, de la culture, etc. Donc, sachons en développer un usage éthique et éclairé et éduquons nos enfants à cet usage-là. Voilà. Et ça, c'est ça. Par contre, c'est très chronophage et c'est très très important. Donc, je pense que ce documentaire est utile, qu'il faut qu'il soit vu, connu, et que c'est un argument supplémentaire pour une modération numérique. Maintenant, il ne faut pas s'empêcher d'en trouver les bons usages. Il s'agit que le numérique soit au service des gens et non pas asservi avec le numérique. Voilà, et la dernière question, c'était quoi déjà ?
Un ouvrage.
Un ouvrage. Ben moi, je suis très, très contente de savoir qu'il y a la version traduite en français de l'ouvrage de Don Clay, qui est une psychiatre nord-américaine qui avait écrit un livre qui s'appelle « Reset Your Child Brain ». Donc, remettez à plat, reformater le cerveau de votre enfant, qui décrit très, très simplement les effets de la surexposition aux écrans sur les enfants et les adolescents et propose tout un programme de détoxification numérique.
Donc, les solutions existent et voilà, tout n'est pas. Des choses peuvent être mises en place pour justement accompagner les
peuvent familles. Et doivent, mais là, c'est long. C'est un long chemin, mais on est plusieurs acteurs à y contribuer.
D'accord. Bah, écoutez, c'est sur ces notes positives, Anne, que nous allons conclure notre échange. Nous tenons très sincèrement à vous remercier pour votre temps. Et je rappelle du coup votre association Alert, qui justement du coup accompagne les personnes et aide les enfants, les parents dans cet usage du numérique et qui aide pour l'éducation et la rééducation du temps d'écran. Pour davantage d'informations, j'invite nos auditeurs à consulter votre site web alerteécran.org et nous mettrons également le lien dans sur le site. Anne Lefebvre,
et merci à vous beaucoup de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer.
Merci beaucoup, Anne.
Merci, bonne journée à tous et déconnectez.